bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec... Pourquoi tu cries comme ça?
Parce que je suis de bonne humeur.
Avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Alison Wheeler, la crieuse. Daniel Morin.
Bonjour.
Monsieur Albert Al,
bonjour.
Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 11h40, 11h45, évidemment. Et notre invité, Yann Arthus Bertrand.
Bravo.
Bonjour.
Bienvenue Yann, merci d'être présent, merci de comprendre aussi que nous fassions une émission plus courte évidemment puisque nous allons nous associer à l'hommage national rendu aux gendarmes à Arnaud Beltrame, ce qui est tout à fait naturel. Et d'ailleurs les valeurs de ce héros, les valeurs défendues, nous font tous penser qu'il est important de revenir à des valeurs.
Voilà. Et hier soir en m'endormant, je regardais la vidéo de Mélenchon à l'Assemblée nationale qui était très belle. Vous l'avez vu,
le discours qu'il a tenu.
Ah, il a fait un discours magnifique. C'est beau comme ça quand les
hommes politiques sont capables de... l'union. Il prenait l'union
et la reconnaissance. Ouais. C'était beau.
Ça chauffe pour la planète. C'est le titre d'un livre que vous préfacez chez Gallimard avec beaucoup de dessins. Et pour cause, c'est un réseau de 162 dessinateurs qui s'appelle Cartooning for Peace. Dans le monde entier, c'est Plantu qui a créé cette association en 2006. On va le dire en français d'ailleurs, c'est Dessinateurs pour la paix.
Exactement.
Si on le traduit mot à mot. Kofi Annan, président d'honneur de cette association, prix Nobel de la paix, ancien secrétaire des Nations Unies. L'idée étant de dire que le crayon, le papier peuvent justement sauver la planète, vous le pensez, vous le croyez?
Bien sûr, mais de toute façon, c'est une association formidable. Comme mon ami Plantu m'a demandé ça, de faire la préface de ce petit livre. C'est bien parce que tout l'argent, faut acheter ce livre.
Il est à 10 euros.
Chez Gallimard.
Ouais. Voilà, ah, quand même, 10 euros, c'est pas donné. Hein.
Oh, bah. C'est fait.
C'est deux cafés. Deux cafés noirs.
À Paris, oui. Le café, c'est pas le prix normal.
Et tout l'argent va surtout pour aider cette association, aider ces journalistes qui travaillent pour la paix. Donc, je suis très fier de l'avoir fait.
Allons plus loin, Yann. Allons plus loin, parce que d'abord, je tiens à préciser que ce livre est fait en avec du papier. Non, c'est pas du papier recyclé. C'est à partir de forêts, de bois, de forêts respectées je sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils plantent des arbres en disant ça va servir au papier, mais ils ne déforestent pas des forêts pour dire on va faire des arbres. C'est ça.
Exactement.
Voilà. Donc c'est important de le préciser aussi parce que
ils déforestent pas pour faire de céréales qui vont servir à nourrir des animaux, parce que 80% aujourd'hui des terres agricoles pour les céréales servent à nourrir les animaux, et ça faut en parler. Donc chaque fois que...
Alors on va parler de tout et dans tout.
D'accord, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu mon truc en soi.
Vous allez sur le terrain, d'ailleurs vous serez à Millau bientôt.
Je serai à Millau demain soir avec José Beauvais pour les aider à lancer le lancement du nouveau plan climat, à Millau. Donc au cinéma de Millau demain soir, et je ferai une petite conférence qui s'appelle Vue du cœur, ce que j'ai vu pendant 50 ans.
Il faut... agir. C'est en même temps, quand on lit le livre, quand on voit les dessins, quand il y a cette phrase que vous écrivez où on a tous en nous un peu de Donald Trump. Je me suis senti insulté quand j'ai lu cette phrase.
C'est pas facile à lire.
Mais vous dites en fait, c'est pas le réchauffement climatique n'est pas que de son fait, c'est de la faute de chacun d'entre nous.
Comment vous dire ça sans
gâcher
votre matinée?
Non.
Depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à la biodiversité et à la nature. Depuis 20 ans, ça me passionne. Jamais j'aurais pensé lire que nos oiseaux allaient disparaître, que 80% des hirondelles ont disparu en France. C'est émouvant. Quoi.
Vous dites que 60% des oiseaux, des poissons, des mammifères, des espèces ont disparu depuis 40 ans.
Entre 70 et... WWF, sur le dernier rapport, 60% du vivant sur la planète a disparu depuis 40 ans. On parle de la disparition inexorable des éléphants, inévitable, c'est écrit.
Il y en avait 1 million il y a 40 ans, et il n'y en a plus que 300 000 aujourd'hui.
Voilà. Et on en perd, là on va parler
des
40
lions.
Minutes, il y aura deux éléphants qui vont être tués aujourd'hui. Pendant les 40 minutes dans lesquelles on va parler.
Par des braconniers?
Braconniers, puis aussi l'ivoire. L'ivoire vaut aujourd'hui plus cher que l'or. Les Chinois achètent ça très cher, parce qu'évidemment les Chinois ont les moyens de le payer, aussi pour la viande, et puis surtout aussi pour la démographie. Aujourd'hui, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions.
Et on sera 9 milliards en 2050.
Ouais. Donc, il y a une pression démographique incroyable et donc, ces gros animaux dérangent. Ils traversent les champs, les gens. Donc, il y a une, même ces éléphants, tous ces gros animaux et tous les gros félins dérangent les gens qui vivent autour. D'ailleurs, on voit bien pour deux ours qu'on va mettre dans les Pyrénées le débat que ça fait.
Et il y a des images qui circulent en ce moment sur Internet d'un idiot qui a payé 15 000 euros pour tuer un lion et poser en photo
ce qui me donne de l'espoir, et de ça que je n'en avais pas beaucoup dernièrement, c'est ces millions de gens, de jeunes, qui ont été capables de défiler aux États-Unis contre les armes. Si on était capable d'être des millions dans la rue contre les pesticides, ça serait réglé. Quoi. Aujourd'hui, on n'est pas capable de s'engager, de se mobiliser.
Parce qu'on n'y croit pas, parce que c'est le discours même, vous citez René Dumont dans la préface, qui était le premier
40 ans, quoi.
Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on parlait de René Dumont comme étant une espèce d'illuminé.
Il faut dire qu'il était candidat au présidentiel.
Et il a fait 1%.
Et il était beaucoup moqué, vilipendé, alors qu'il était visionnaire.
Il faisait sa campagne électorale à vélo, avec des sacoches sur le côté distribuer ses tracts. Et tout le monde se moquait de lui. Or, quand on relit tout ce qu'il a dit en 70, c'est dingue. Il parlait de mondialisation avant même qu'elle existe, de surconsommation, alors qu'on est en train de
détruire la planète. Et on est tous, non pas coupables, mais tous responsables.
Alors justement, mais ne prenez pas ce ton.
Je suis touché au cœur, mais
la situation est dramatique, mais là où il faut positiver, c'est de se dire qu'il est encore temps, mais il faut agir aujourd'hui.
Je pense que c'est trop tard, moi.
Non, il est encore temps.
Mais je croyais qu'on était rentré dans une ère de déconsommation. Moi, j'avais lu ça.
De quoi
De déconsommation.
En tout cas, il ne faut pas laisser aux ONG le soin ou aux politiques de se battre pour la planète. C'est à toi et à moi de le faire tout de suite.
Avec des gestes quotidiens et en étant concerné.
Voilà. C'est quoi tous ces plastiques là sur la table?
Commençons par ces...
Regarde la bouteille en plastique qu'il y a ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une carafe d'eau? L'eau de Paris est délicieuse. Pourquoi on prend des
L'eau de la Seine est délicieuse.
En plus, à Radio France, on a une source. En dessous, il y a une nappe phréatique et l'eau est gratos. Oui, bien sûr.
L'eau est gratos.
Autrefois, il y avait des robinets à tous les étages de Radio France. C'était l'eau qui vient de la nappe phréatique. Elle était très bonne. Les gens venaient remplir leurs bouteilles. Je ne sais pas si ça se fait encore à certains endroits.
Apparemment pas.
C'est dommage.
C'est dommage, c'est par la bière.
Mais pour en revenir à ça, Yann,
la commodité.
Yann.
Voilà, on est esclave de la commodité.
Pour lancer une campagne.
Yann. Je ne crois pas que ce soit en culpabilisant.
Je ne culpabilise pas, je responsabilise.
C'est pour ça, voilà. Donc je voudrais que cette demi-heure qui nous reste d'émission serve à faire comprendre que, en effet, si on n'agit pas maintenant, c'était Hubert Reeves à ce micro qui avait dit, c'est pas la planète, elle continuera d'exister, c'est l'espèce humaine.
C'est la vie sur Terre.
Voilà. Et c'est la phrase que vous citez aussi dans le livre en disant, ça ne sert à rien de conquérir la Lune si on tue la Terre et si on l'abandonne. Et une phrase de Mauriac, me semble-t-il.
Je crois que c'est Mauriac.
Tu me fais un faux débat parce que ça fait
Un faux procès, tu veux dire.
Un faux procès parce que ça fait 30 ans que je me bats pour essayer de... Et aujourd'hui, chaque année, l'année dernière a été la plus chaude. On a l'impression que ça ne sert à rien.
Alors justement,
je sais pas quoi faire.
Est-ce qu'on peut revenir sur ces 30 années de lutte? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, il y a...
30 années peut-être, Léla, mais c'est le matin, t'as eu 30 années.
Ah oui, pardon.
Mais parce que je t'aime, je me permets. Oui,
non, mais bien sûr.
Il y a les 4 amis et les 30 années.
Oui, pardon.
Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel.
Je te dis entre 4 yeux.
Oui, oui. Bon, d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit aux États-Unis, c'est fantastique. Ils ont été un peu plus d'un million à descendre dans les rues
pour
manifester contre les armes. Or, c'est pas gagné du tout.
Oui, mais je crois à ce geste citoyen. Non, mais je veux dire c'est ça qui changera
les choses. Ça amorce un mouvement. On verra.
D'une nouvelle génération.
On verra ce que ça va donner.
Voilà.
On verra ce que ça va donner.
Les droits civiques.
En revanche, qu'est-ce que ces dernières années de combat vous concernant, qu'est-ce que vous notez sur le militantisme? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça fait tant d'années qu'on milite et que finalement il n'y a pas d'amélioration? Ça veut dire quoi? Les actions sont pas les... Alors il y a la responsabilité individuelle, certes, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas? Est-ce que les gouvernements sont suffisamment eux aussi concernés et obligés d'agir? C'est quoi votre bilan à vous? Qu'est-ce
d'abord,
que vous en
pensez? Les hommes politiques qu'on mérite. Ils nous ressemblent, ils sont plus courageux, ni plus intelligents que nous. Ça, d'abord, on vit en démocratie et c'est la rue qui décide. C'est avec votre caddie que votre vote, il est dans votre caddie. Comment vous achetez, comment vous consommez. Ce qui a changé depuis ces dernières années, c'est la conscience. Depuis le film d'Al Gore, depuis les années 2000, on sait que c'est en train d'arriver. Ouais. Mais on vit dans un déni complet. On ne veut pas croire ce qu'on sait. Quand vous avez l'appel des 15 000 scientifiques en janvier, vous avez vu ça, c'était ouais. la une du Monde. Moi, j'avais les larmes aux yeux en lisant ça. Parce que quand vous lisez cet appel des 15 000 scientifiques de 85 pays, ils parlent de la fin du monde derrière les lignes. On vous parle de la sixième extinction sur la planète. C'est quand même énorme ce qu'on entend. Sixième extinction oui. de la vie sur Terre.
Mais vous dites vous-même que le capitalisme est ce qui engendre la ruine de la planète.
Parce que c'est toujours le fait d'avoir plus, de consommer.
Sauf qu'un gouvernement est péniblement capable de gouverner sans ces règles capitalistes. Alors qu'est-ce que... Voilà, moi c'est ça la question que je me pose. On a les politiques qu'on mérite, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit ça ?
Qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je consomme moins de viande ? Est-ce que j'achète bio ? Acheter bio, c'est indispensable aujourd'hui parce que bio, c'est 6% du territoire français. Donc, il y a 94% du territoire agricole français où on met des pesticides. Ces pesticides, vous savez, pesticides, herbicides, infanticides, génocides, ça veut dire tuer. Hein. Mm-hmm. C'est très, très, très simple. Donc, quand vous mangez pas bio, ben vous y participez. Vous êtes responsable un tout petit peu, mais vous l'êtes. Voilà.
Sauf que le bio coûte plus cher.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent.
Vous dites dans votre politique, les gens qui ne peuvent pas.
Mais c'est vrai que c'est politique.
En parlera la semaine prochaine avec la permaculture dans cette émission. Un doc formidable et nous allons inviter aussi bien d'ailleurs un ingénieur qu'un agriculteur à venir à ce micro où normalement ce sont des vedettes comme vous, Yann, qui venaient. On a tenu en tout cas à ce qu'ils viennent parce que ils ont les mains dans la terre contre les pesticides. Vous dites dans votre livre qu'il y a toujours malheureusement un agriculteur sur cinq qui se suicide parce qu'ils sont au bout du rouleau.
C'est très difficile de les attaquer.
Qui ne gagnent que 300 euros par mois.
C'est complètement
pour certains d'entre eux.
C'est lamentable. En fin de compte, les métiers les plus importants en France, qui sont infirmiers, instituteurs et paysans, ce sont les salaires les plus bas. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc, ce qui pourrait aller, c'est de se dire, est-ce que la nouvelle agriculture, respectant la terre, en étant bio, sans pesticides, en respectant les saisons, et sans aller chercher forcément des produits qui viennent d'Australie ou qui viennent d'Amérique du Sud, voilà, et se dire, on peut très bien avoir ces légumes et ces fruits en fonction des saisons. Alors, ok, on n'aura pas de tomates en hiver, mais on attendra qu'il y ait un peu plus de soleil pour manger des tomates.
Les tomates, elles sont pas bonnes.
Oui, en plus, elles ont pas de goût.
Un agriculteur qui fait du lait avec du foin, donc il fait ça normalement parce que des vaches elles mangent du foin, c'est normal, c'est un ruminant, touche beaucoup moins d'aide que celui qui le fait.
Donc
c'est politique, ça c'est une politique. Mais en même temps, si vous, tout le monde ici, on n'achetait que du beurre et du lait bio fait avec des
c'est l'interaction des deux.
Il faut être prêt aussi à payer un peu plus cher les produits qui sont des bons produits. Aujourd'hui, le prix du lait, c'est la Nouvelle-Zélande qui le décide. C'est pas normal, ça devrait être décidé ici. Selon le niveau de vie des paysans.
Si on payait un centime de plus par litre de lait, les producteurs laitiers seraient à l'équilibre.
Mais faut payer.
C'est rien, un centime de plus. Ouais. Mais ce qui m'ennuie, pardon, hein, Leïla, je redis tout l'amour que j'ai pour toi. Hein. Ce qui m'ennuie, c'est quand on dit que font les politiques.
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis pas ça.
Il y a un moment, je pense que il faut que ça soit nous.
Qu'il y a la notion de responsabilité personnelle, mais qu'encore une fois, je ne dis pas que c'est l'État uniquement qui doit nous sortir de là. Je dis simplement que c'est une interaction entre l'action de la société civile, des citoyens que nous sommes, et aussi des responsables politiques.
Je
finis parce que c'est trop important pour être interrompu sur le sujet. Je dis par là que...
Trop important.
sincèrement, je dis simplement que quand vous expliquez que c'est la Nouvelle-Zélande qui décide du prix du lait, là, pour le coup, en tant que citoyen, je peux en effet acheter une brique de lait française, mais je me dois aussi d'interroger mon gouvernement, mes élus, pour voir ce qu'ils font. Je suis pas en train de dire que c'est que le gouvernement ou les élus, je dis simplement que chacun doit prendre sa part à la responsabilité.
Élire des politiques qui ont un vrai programme.
Alors, qui sont-ils ?
Eh ben, je sais pas.
Ah, non, mais alors voilà. Il y a aussi, si on va jusqu'au bout des choses.
D'accord. Quand on parle je veux bien, des t'interrompre, Leïla, mais il y a un moment où je veux bien parler aussi un tout petit peu.
Oui, bah vas-y. Mais ça y est, moi j'ai fini mon idée.
Le geste politique, en lisant ce livre, simplement en éteignant les appareils qui sont en veille, en réduisant la consommation d'électricité, en fermant l'eau du robinet quand on...
Ça fait 15 ans qu'on le dit.
D'accord, mais il faut le faire.
Mais il faut le faire.
Il faut le faire. En prenant plus de douches et en fermant l'eau du robinet quand on se brosse les dents, en ayant des gestes sur le tri sélectif, en consommant moins de viande, moins de poisson, je dis pas
ça,
plus,
très
du,
important,
plus
très
du tout
important.
De viande, plus du tout de poisson, je dis juste moins de viande. Mécaniquement, mécaniquement, il y aura moins de demandes, donc ils vont se retrouver aussi en se disant, on en produit trop, il faut réduire. La déforestation, la quantité d'eau et de pollution engendrée par l'élevage industriel de la viande est plus important que celui des transports.
C'est incroyable.
C'est juste dingue. Ça pollue plus d'élever du bétail que l'on va manger que de rouler avec des voitures diesel ou avec des avions qui volent. C'est quand même
sauf
dingue.
Que tu vois bien qu'à Paris, les premiers à râler parce qu'on coupe les voies sur berge, parce que tout d'un coup, c'est hyper contrasté dans la façon de se positionner. Il y en a qui vont dire, ok, moi je suis capable d'arrêter de prendre des bains, je vais prendre des douches, je vais faire du tri. En revanche, qu'est-ce qu'on roule mal à Paris? Ben oui, mais en fait, il n'y a pas assez de transport.
Ben c'est vrai. Et ça pollue plus, parce qu'il y a plus de bouchons et ça pollue plus.
Donc ça veut dire quoi? Qu'on laisse les voies sur berge? Non, mais tu vois ce que je veux dire toi-même sur le sujet,
je te dis que ça pollue plus.
Moi, je dis simplement qu'il y a les mesures citoyennes, certes, il y a ce qu'on peut faire chacun dans son coin, en effet,
par
ou
exemple,
collectivement.
Ne pas acheter de voiture diesel,
par exemple, ne plus acheter de voiture diesel. Mais
oui,
je
mais
pense...
vous dites quand même, les voitures électriques, ça va consommer l'électricité,
ah bon
faut
donc ça pose un problème.
Avec ces conneries, arrête.
Arrête, Nagui, c'est pas vrai.
C'est ridicule. Aujourd'hui, il faut savoir que le français moyen consomme depuis 30 ans
trop d'électricité.
De 300% de plus d'électricité. Voilà, donc regarde les appareils électriques qu'on a dans notre cuisine. On ne peut pas d'un seul coup arrêter les centrales nucléaires. Non, rouler électrique, c'est beaucoup mieux que le rouler du diesel qui pollue et qui tue, tout simplement. On sait aujourd'hui que les particules fines tuent. C'est même, on vient de le découvrir il y a quelques années sur Paris, c'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment que les voitures diesel soient interdites dans Paris. Les bus, moi quand je fais du vélo dans Paris, je suis derrière un bus, c'est épouvantable.
C'est un enfer.
Voilà, c'est l'enfer. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de bus qui fonctionnent électriques et au gaz dans Paris.
C'est un très petit pourcentage. Moi, je le regarde chaque fois.
Sauf que Yann Arthus Bertrand, le coût de la voiture électrique, il n'est pas anodin pour un foyer qui vit, par exemple, en banlieue, qui doit venir travailler à Paris et qui n'a pas forcément tous les transports pour pouvoir venir facilement en, je sais pas, parce que déjà une heure de temps le matin pour venir au boulot, quand on a des enfants, quand on a des responsabilités, c'est pas simple. Donc là, je donne cet exemple-là parce qu'on le maîtrise tous, mais je dis simplement que là, l'action politique, il faut aussi l'avoir. Donc, comment on encourage et on aide à... Il y a eu un certain nombre de mesures pour acheter les voitures électriques, mais vraiment, quand tu vois le prix d'une voiture électrique et l'argent...
C'est encore trop cher,
C'est hyper cher. C'est très cher, c'est pas pour tous les foyers. Vraiment.
Non, je pense que la Zoé, quand on voit les voitures qui roulent dans Paris avec des voitures comme assez grosses voitures, il y a comme une proportion de 30 à 40% de grosses voitures.
Je vois pas ce que c'est une Zoé, c'est quoi? C'est
une voiture électrique de chez Renault qui est géniale.
C'est combien de place?
Il y a la C0,
le Citroën.
D'autonomie, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher.
Toutes les marques vont être obligées d'aller vers
3 ans, on l'a récupéré.
Non, pour
3 ans, on l'a récupéré avec de la consommation électrique. Par contre, le problème qu'on a, c'est comment charger sa voiture. Parce que dans un appartement, dans un parking collectif, c'est difficile de mettre une prise. Voilà. Mais ça va venir, mais ça vient beaucoup trop lentement. Voilà.
Mais en tout cas, il y a des gestes du quotidien. Et apparemment, le premier pour vous, c'est la consommation alimentaire qui est importante.
Le premier geste, c'est qu'est-ce que je fais moi,
oui,
personnellement. Le reste, je crois que je ne veux plus culpabiliser les autres.
Donc vous mangez moins de viande, moins de poisson.
J'essaye. Je suis pas parfait parce que moi, je suis responsable comme les autres. Donc j'essaye. Mais surtout, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui est épouvantable. Voilà. Les mots me manquent pour
non non mais j'entends mais
ça.
Ce que je veux dire c'est que il faut en être conscient. J'ai juste peur que l'on bloque un tout petit peu nos auditeurs avec un discours alarmiste. Il est alarmiste parce que oui, en effet, on est en train de tuer des espèces animales, et dans le livre aussi vous dites, et c'est flagrant, et je vais vous donner un exemple qui est dans le livre et tout le monde va comprendre ce dont on parle. Il y a quelques années encore, que vous fassiez de la moto, que vous fassiez de la voiture, il y avait des petits insectes qui étaient sur votre visière ou sur votre pare-brise.
Qui constellaient complètement.
Et maintenant, il n'y en a plus.
C'est pas plus mal.
Non. Il n'y en a plus.
Non, mais.
Et la nature a besoin de ces insectes.
Mais on ne se rend pas compte, c'est derrière, c'est les abeilles, c'est tout ce qui se passe derrière. Mais c'est très grave.
Et c'est vrai.
C'est pas quelque chose d'anodin. C'est difficile de rigoler de ça.
Alors qu'on avait l'impression que les insectes étaient les animaux les plus résistants de l'espèce, et ils ont du mal.
En tout cas, je vous donne tous rendez-vous à la Fondation Coup de Planète, hein, ou tous les week-ends, dans le Bois de Boulogne. On va parler aussi bien d'humanité. Et ce week-end, on va parler des poissons, avec les gens de Sea Shepherd qui vont venir, les gens de Bloom qui vont parler du chalutier. Et vraiment, on a créé un endroit où on peut aussi bien parler d'humanité, d'humanisme, des réfugiés, et aussi parler de biodiversité. Et comme il va pleuvoir ce week-end, le château est on est à l'abri, il y a pour les enfants, il y a de la musique. Tu connais Albert, tu
es Michel. Il y a souvent dans le coin du Bois de Boulogne, il pourra passer.
Chaque fois que je passe, c'est fermé.
Ah ouais, chez Gallimard. Tu passes.
Le soir tard.
C'était ça la vanne. Chez Gallimard, ça chauffe pour la planète, je te jure. 60 dessins de presse préfacés par Yann Arthus Bertrand. J'espère, Jean-Michel Lapati, vous avez bien compris pourquoi Yann Arthus était notre invité.
Cher Nagui, bonjour. Merci de m'accueillir dans la bande originale, car il n'y a pas de raison que mon cousin Jean-Michel soit le seul journaliste à déblatérer ses commentaires, décryptages et interviews sans concession. Désormais, lui sur France Info, moi sur France Inter, la parité Apathy-Apathy se trouvera respectée. À présent, passons à Yann Arthus Bertrand. Certes, ce célèbre photographe et réalisateur, très engagé dans la cause environnementale, est une personnalité extrêmement respectée. Impeccable. Toujours est-il que la lecture de sa préface, ça chauffe pour la planète, m'a foutu un bourdon irrémédiable. En effet, Yann Arthus Bertrand lance un cri terriblement alarmant. Je cite, si ça continue, on va tous crever. Texto. Et je ne suis pas le seul dans la bande originale à avoir été ébranlé, remué par cette exclamation.
Clairement.
Ce matin, vous-même, cher Nagui, effectivement, oui. On vous charriait tout à l'heure, mais en entrant dans le bureau, vous vous êtes précipité sur JN2B, votre rédacteur-chef, barbu en criant. Mais bougre d'abruti, tu oublies qu'on est une émission de divertissement. Qu'est-ce qui t'a pris de faire venir Yann Arthus Bertrand? Il va foutre le moral à zéro à tous les auditeurs. Mais on mon maître, Yann Arthus Bertrand est aussi très positif. Par exemple, il appelle à économiser l'énergie, à réduire le gaspillage en consommant des produits locaux. Eh bien, prends ça, c'est un produit local. Châtaigne maison, garantie sans OGM. Dit Nagui en balançant un beau pif à JN2B. Et si tu veux des pains écoute-moi cela, ajouta-t-il, en boxant le malheureux, rédacteur-chef, je reprends l'accent, qui déjà gisait à terre, recroquevillé en position fœtale, et résultat, JN2B est réellement en arrêt de travail. Il n'est pas là ce matin. Après, Nagui a rapidement jeté un coup d'œil à la quatrième de couverture de sa chauffe pour la planète, et calmement s'est dirigé vers le studio. Voilà, cher Yann Arthus Bertrand, comment ça se passe dans les coulisses de la bande originale.
Arrêté, ouais.
Bonne émission.
Merci à vous.
Non mais, on va tous crever. C'était un journal qui est dans la gueule ouverte.
Choron,
voilà, qui passait dans les années 70. Voilà, qui disait le seul journal qui parle de la fin du monde dans les années 70. 60. Tu vois, là, quand même, le visionnaire. Quoi.
Elle va nous redonner du beau au cœur. Oui. C'est l'humeur d'Alice Wheeler.
Yann Arthus Bertrand, j'étais hyper stressée à l'idée de vous accueillir parce que vous portez les prénoms de mes trois derniers ex. Alors je pensais que c'était une émission spéciale sur mes échecs sentimentaux, mais Dieu soit loué, c'est vous. Bon, vous avez dû sentir un énorme vide la semaine dernière à l'antenne de France Inter, c'est normal, j'étais pas là, j'étais au ski. Ah là, je suis détendue quelques jours au ski, ça me fait un bien fou à chaque fois, l'air des montagnes, ça fait faire le vide de tout. Ouais, tu fais le vide, c'est grâce à l'absence d'oxygène en altitude. Ton cerveau est moins irrigué, comme si t'avais regardé Énergie 12 pendant 3 semaines non-stop. Le ski, c'est des sensations fortes. La vitesse à laquelle tu descends les pistes, la vitesse à laquelle tu descends ton compte en banque, la vitesse à laquelle tu prends du poids en mangeant n'importe quoi. Car la montagne, c'est aussi goûter aux spécialités savoyardes. Les savoyards, ils te mettent du fromage dans tout. Tu manges raclette au reblochon le matin, fondue le midi, tartiflette le soir. Tu fais des proutes 3 fromages, c'est fabuleux. Heureusement, pour digérer, il y a le Génépi. Pour ceux qui connaissent pas, le Génépi, c'est un antiseptique. Si. aussi utilisé comme digestif, à ne pas confondre avec le Gégénépi, qui est une liqueur à base de Gérard Depardieu. Mais le ski, c'est aussi un sport qui comporte des risques. Ah oui, je vous mets au défi d'essayer d'uriner avec une combi intégrale, c'est chaud. C'est aussi le risque de découvrir son partenaire. Le risque de découvrir son partenaire sous un autre jour, de voir son homme, d'habitude si viril, impassible devant le soldat Ryan, pleurer comme une merde avec une stalactite de morve dans la barbe façon de Revenante, parce qu'il vient juste de tomber du tire-fesse. Et lui, il prend le risque aussi de me découvrir autrement. J'ai des dreads, le visage luisant de crème, une démarche de camionneur, lèvres gercées, ouais, je suis zaz. Et elle pardonne pas la montagne, un peu comme les Français à Bertrand Cantat. Le moindre moment d'inattention sur la piste et tu finis avec le fémur dans l'œil ou le bâton planté dans un enfant, c'est l'enfer. D'ailleurs, je trouve que la montagne, c'est une belle école de la vie. Moi, un enfant qui se vautre sur une piste, qui a la jambe en bandoulière et le ski dans la mâchoire, je le relève pas. Bah non, non, faut apprendre mon petit, ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. C'est pas moi qui suis injuste, c'est la vie. C'est une vraie jungle, un peu comme le métro parisien. D'ailleurs, tu le reconnais, hein, celui qui te double dans la queue du télésiège au ski. C'est le même à Paris qui veut monter dans la rame alors que tu veux sortir. Suppôt de Satan, tu m'as suivi. Le chétan te guette. Aux enfers des sensibilités des transports, tu iras. Avec les gens qui marchent sur les voies et autres manspreaders et Anne Hidalgo. Excusez-moi, je crois que finalement, cette semaine au ski m'a stressé et j'aurais bien besoin d'une semaine au soleil.
Merci, Alessandra. La bande originale. Yann Arthus-Bertrand, ça chauffe pour la planète. C'est un titre qui est pas totalement alarmiste, mais il faudrait l'être un tout petit peu plus. On le sent même à votre voix. Vous êtes ému quand vous parlez en disant je ne sais plus quoi faire pour que l'on comprenne l'urgence. Et l'urgence se situe à notre niveau. Il faut arrêter de regarder le voisin en disant c'est la faute de l'autre ou c'est la faute des autres. Il faut que nous bougions chacun dans notre coin.
Peut-être que l'avenir de mes enfants sont plus importants que le mien, tout simplement.
Clairement. Saint-Exupéry disait que nos enfants n'héritent pas de notre planète. Oui, c'est nous qui l'empruntons à nos enfants. Voilà. Vous lui lancez un appel d'ailleurs.
Oui, je vous lançais parce que je m'occupe. J'ai une personne que j'adore, qui est la sœur Marie-Jo, qui s'occupe des réfugiés. Elle est 18 rue de Tanger dans le 19e. Oui. Et elle m'a lancé un appel ce matin en me disant je manque de couches, de lait pour bébé et surtout de vêtements mi-saison. Oui. Elle accueille tous les jours des centaines de réfugiés. Donc, si vous avez des vêtements en trop chez vous, vous voulez amener des couches, donc c'est 18 rue de Tanger, Paris 19e. La sœur Marie-Jo, c'est pour moi une espèce de sainte que j'adore. Elle s'occupe de réfugiés. On est pas mal impliqués là-dedans. Voilà.
C'est à côté de la station Stalingrad et en effet,
elle est formidable. Ouais, elle a besoin de
elle
est toute seule, elle est avec son téléphone, elle a que des bénévoles avec elle pour aller l'aider. La sœur Marie-Jo, allez-y.
Elle a besoin de vêtements et de
vêtements mi-saison, de couches et de lait parce qu'il y a des réfugiés qui viennent avec des bébés. Voilà.
Et j'imagine on peut lui envoyer un don aussi ou pas
Sûrement. Vous voulez que je donne son téléphone j'ai pas mon téléphone, monsieur. Puis vous donnez son téléphone. Oui, bien sûr, on peut donner don, mais elle est toute seule, elle répond jamais au téléphone que par SMS. Elle est débordée, plein de gens qui vont l'aider. C'est vraiment une sainte. J'adore cette femme. Voilà. Donc, la sœur Marie-Jo, 18 rue de Tanger, Paris 19e, allez l'aider, allez l'aimer et partager avec elle ses convictions profondes.
Voilà, qui dit, voilà, il a la important. Main sur le cœur et l'œil sur la planète. Yann Arthus-Bertrand, merci d'être venu ce matin. Ça chauffe pour la planète, ça coûte 10 euros et ça aidera justement cette association.
Et c'est très bon, les dessins sont formidables. Les dessins sont formidables.
Bravo à Plantu qui s'investit vraiment énormément dans ce projet.
Et lisez-le parce qu'il y a plein de conseils pour que chacun, dans notre quotidien, nous puissions transmettre, faire du bien et sauver cette planète.
Il est trop tard pour être pessimiste, bien sûr.
Absolument. Fin de cette bande originale exceptionnellement raccourcie, puisque nous allons céder l'antenne à Laetitia Gaillet pour l'hommage rendu à celui qui, par ses valeurs et son comportement, a redéfini le mot de héros. On parle évidemment du commandant Arnaud Beltrame. Lieutenant-colonel. Et nous retrouvons Laetitia Gaillet pour cet hommage, cette édition spéciale.